Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Mathieu. Boc côté, cher Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Arthur de Vatrigan, heureux bonjour de vous retrouver. Le point sur l'information avec Sandra Chiombo et ensuite on commence l'émission.
Bonjour Elliot, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce samedi, les suites de l'agression au couteau à Souffelversheim en Alsace. La famille d'une collégienne décédée a porté plainte pour homicide involontaire. L'adolescente de 14 ans a fait un malaise, on le rappelle, un malaise cardiaque pendant le confinement de son collège. Il a été mis en place suite à l'attaque de deux fillettes dans le même quartier ce jeudi. Stanislas Rigaud agressé en pleine rue ce vendredi soir. Ça s'est passé dans le 14e arrondissement de Paris. Le président de Génération Zemmour, la branche jeunesse du parti Reconquête, a porté plainte. Un groupe d'individus l'ayant reconnu aurait provoqué l'altercation. Il l'aurait traité de facho et de nazi. Et puis l'Iran minimise la riposte imputée à Israël. Elle s'est déroulée ce vendredi à l'aube dans le centre du pays. Selon Téhéran, il ne s'agissait pas d'une attaque, mais plutôt, je cite, de deux ou de trois drones, comme ceux avec lesquels les enfants jouent en Iran. Il n'y aurait donc pas de représailles pour l'heure.
Merci chère Sandra pour le point sur l'information. À la une de Face à Mathieu Boccoté, c'est un livre qui truste les premières places des ventes, mais a vu sa promotion dans les rues de Paris interdite, car jugée transphobe. Transmania de Marguerite Stern et Dora Moutot, deux militantes féministes, pointent dans cet ouvrage les dérives liées à la transidentité. Que l'on partage ou non, c'est leur position, mérite-t-elle cette censure ? On en parlera dans un instant avec Mathieu Boccoté. À la une également, on va parler d'un sujet sensible outre-Atlantique. Au Canada, le gouvernement envisage d'intégrer les critères à la finance islamique dans les politiques publiques pour favoriser l'accès à la priorité, à la propriété des musulmans. C'est ce qu'on appelle chez vous, Mathieu Boccoté, l'hypothèque halal. Vous allez tout nous expliquer dans cette émission. Enfin, dans Face à Mathieu Boccoté, vous recevez Bernard-Henri Lévy pour son dernier livre, Solitude d'Israël. Un peu plus de 6 mois après le pogrom du 7 octobre, comment l'État hébreu s'est retrouvé aussi isolé? On en parlera dans cette émission. Voilà le programme. Cher Mathieu Boccoté, cette semaine en France, comme en Europe, la censure était de retour. On en a parlé pour Éric Zemmour, de même que pour celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est de la tentative de censure d'un livre, cette fois-ci, que vous voulez nous parler, dont vous voulez nous parler. On va parler de Transmania, et c'est votre premier édito, cher Mathieu.
Ouais, alors c'est une semaine très particulière quand même. D'un côté, on l'a évoqué, j'en ai parlé beaucoup à Face à l'Info d'ailleurs cette semaine, une descente de police quand même. Il faut bien savoir ce dont nous parlons lors de la conférence des nationaux conservateurs à Bruxelles, Éric Zemmour, mais pas seulement. Une bonne partie de la classe politique européenne qui était là, et il y a une descente de police pour interdire une rencontre qui a finalement été autorisée, mais c'est digne des régimes communistes, ça, il ne faut juste pas l'oublier. Hein, à Bruxelles, c'était marqué. Ensuite, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui aussi, quoi qu'on en dise, on peut ne pas du tout apprécier son propos, a aussi été censuré sur une autre base, mais c'est une logique de censure pour les conférences qu'il voulait tenir dans le cadre de la campagne des européennes. Alors, sa manière de se défendre lui-même était par ailleurs lunaire. Il s'est présenté comme le grand résistant. Il a mobilisé encore une fois l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour justifier sa position. Et ce qui est drôle, c'est de voir toute la gauche spécialiste de la censure qui soudainement se portait à la défense de la liberté d'expression. C'en était lunaire. Hein? Des gens qui veulent fermer CNews, des gens qui veulent toujours rajouter des délits d'opinion dans le droit, soudainement brandissaient l'étendard de la liberté d'expression. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis un vrai libéral en cette matière. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même ceux que je n'apprécie pas. Mais ce n'est pas l'avis de la mairie de Paris. De plusieurs figures importantes de la mairie de Paris, autour, vous l'avez dit, du livre de Stern et Moutot, Transmania. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce livre sort. C'est une enquête musclée, polémique, diront certains, mais à tout le moins documentée, ça c'est l'essentiel, sur la question de l'idéologie transgenre et de son impact sur les jeunes générations, notamment. Donc c'est un ouvrage et l'éditeur, faisant son travail, fait la publicité pour l'ouvrage avec des panneaux à Paris et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs figures importantes de la mairie de Paris en appellent à la censure dans des termes très clairs. Et je vais en citer quelques-uns pour qu'on comprenne bien le vocabulaire utilisé pour appeler à la censure. C'est le cas d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, qui dit « La transphobie est un délit. La haine de l'autre n'a pas sa place dans notre ville. Paris n'est pas la vitrine de cette haine crasse. » Et là, il dit « Je vais en appeler à l'entreprise » qui fait des panneaux pour de publicitaires, pour qu'elle retire cette publicité. Et là, certains lui disent « Oui, mais la liberté d'expression, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si mal, la liberté d'expression. » Sa réponse. « Invoquer la liberté d'expression pour justifier les discours haineux, c'est la spécialité de l'extrême droite, et c'est toujours aussi détestable et ridicule. Paris est et restera une ville-refuge pour tous et toutes. Ne laissons pas gagner les diffuseurs de haine. » Donc, vous comprenez? Pour ce monsieur, la défense de la liberté d'expression, c'est l'extrême droite. C'est un thème d'extrême droite aujourd'hui. Il n'est pas le seul à parler ainsi. C'est aussi le cas de David Béliard, une autre figure de la mairie de Paris. Cette publicité pour un bouquin transphobe, la définition de la transphobie, on ne la rencontrera pas, hein, participe à la normalisation de la haine envers les personnes trans, une idéologie mortifère à mille lieues des valeurs de Paris. Ah, on est passé des valeurs de la République aux valeurs de Paris. Cette publicité doit être retirée, censure, réclamée. Et il y a aussi Jean-Luc Romero-Michel de la mairie de Paris. Paris n'accepte et n'acceptera jamais une campagne transphobe. Quel soulagement que les affiches aient été retirées. Et là, il remercie ceux qui ont mené cette bataille. Il ajoute, les mots, les discours de haine et les discriminations n'ont pas leur place dans un Paris inclusif, un Paris des droits humains. Il ajoute ensuite, c'est important, qu'il n'a pas lu le livre dans un autre tweet. Mais il remercie une association militante de la mouvance LGBTQ et ainsi de suite d'avoir lu le livre et de l'avoir soulagé d'avoir à le lire. Parce que s'il l'avait lu, il aurait passé de très mauvaises nuits, dit-il. Donc on est devant un club de censeurs à la direction de la mairie de Paris qui en appelle ouvertement à la censure dans l'espace public des idées qui contreviennent à leurs valeurs qui, de leur point de vue, contredisent leur vision du monde et dès lors, ils en appellent à la censure politique des discours contradictoires. Je reconnais là la mairie de Paris, je ne reconnais pas la France.
Sur quelle logique Mathieu Bock-Côté repose l'appel à la censure?
Mais toujours la même. Enfin, je répète ça. En ces matières, vous savez, la pédagogie et répétition, c'est comme ça que je me justifie ce soir. On nous explique que ce sont des discours haineux. Et il faut lutter contre la haine. Alors, et là, on va nous dire, par exemple, qu'est-ce que la haine, globalement? C'est tout ce qui remet en question le récit de la diversité heureuse. Tout ce qui remet en question l'idée de monde qui finalement, se déploierait naturellement sous le signe d'une diversité radieuse. Donc, dans le cas présent, si vous n'êtes pas d'accord avec la théorie du genre, si vous affirmez que l'idéologie du genre cause des ravages, si vous affirmez qu'un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme, peut bien s'identifier comme tel si ça lui tente. Mais fondamentalement, si vous affirmez cela, eh bien, c'est un propos haineux. Si vous affirmez, oh culot des culots, qu'un homme ne pourra jamais accoucher, eh bien, vous êtes dans la haine pour cette mouvance-là. On parle de transphobie. Et de la même manière, soit dit en passant, si vous tenez un discours trop critique sur l'immigration massive, on vous accusera de discours haineux. Si vous notez qu'il y a une transformation démographique en France, un basculement démographique, on vous accusera de discours haineux. Si vous notez le lien entre immigration et insécurité, on vous accusera de discours haineux. Et on va dire, et là, c'est à ce moment-là qu'il faut s'intéresser aux évolutions du droit depuis 40 ans. On nous dit, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc si c'est un délit, c'est extérieur au périmètre de la liberté d'expression, ce qui permet à cette gauche tartuffe de dire, nous défendons la liberté d'expression de toutes les opinions, mais les opinions que nous n'aimons pas, on n'a pas à les défendre parce que ce n'est pas des opinions, c'est des délits. Et vous noterez que les délits se sont multipliés avec les années. Les délits qui visent à interdire les propos. Donc, encore une fois, sur l'immigration, sur la théorie du genre, et les sujets se multiplient. Et donc là, on multiplie les interdictions. Et là, il y a tout un dispositif pénal. Il ne faut pas l'oublier. Bon, j'en parlais ici d'ailleurs tout récemment. Un dispositif pénal qui vise à poursuivre les gens qui tiennent des propos qui sont classés sous le signe du délit. Donc, on est dans le délit d'opinion. Et vous noterez que la République, de ce point de vue, a restauré le délit de blasphème. Elle a simplement changé l'objet du sacré. Le sacré, c'est plus Dieu. Le sacré, c'est les tabous et les totems et les références idéologiques du régime diversitaire. Donc, il y a les tribunaux. Il y a les associations militantes qui, par ailleurs, sont financées souvent par l'État pour poursuivre devant les tribunaux ceux qui tiennent des propos associés au délit d'opinion. Une fois que vous avez la condamnation sur quelqu'un, parce qu'elle vient, parce qu'on est devant une justice idéologique, eh bien, vous présenterez désormais le condamné en disant « Ah oui, mais M. X ou M. Z peut-être condamné pour incitation à la haine raciale, entre guillemets. » Mais très rarement, vous noterez, on prend la peine de regarder. Très rarement, on prend la peine de regarder quel était le propos qui a été condamné. Parce que la plupart du temps, on se dit « Mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? » Et là, dans le cas de Mouto, dans le cas de Stern, le livre n'a pas été... Vous, notez, je le dis, les gens qui n'ont pas lu le livre l'ont déjà étiqueté et en appellent à son évacuation de l'espace public. L'objectif, c'est... Il y a aussi le terme extrême droite. Ça, c'est très à la mode, encore une fois, on le sait. Et l'objectif, c'est condamner à la mort sociale. C'est de faire en sorte qu'une fois qu'on vous a collé cette étiquette, le prix à payer pour s'associer à vous soit tel que personne ne voudra s'associer à vous. Il faut faire en sorte que vous ne puissiez plus évoluer en société, que vous soyez invisibilisé, que vous soyez banni des réseaux sociaux, que vous ayez une difficulté d'accès aux différents comptes bancaires. Et l'argument, c'est toujours le même, la crainte pour l'ordre public. Ça, c'était l'argument de Bruxelles. Je me permets de le rappeler avec le maire de la commune de Saint-Josse qui a dit « menace de trouble à l'ordre public pour la conférence des nationaux conservateurs et de toute façon, les fascistes n'ont pas leur place dans notre ville, dans notre commune. » Donc, autrement dit, on fait semblant qu'il y a une question d'ordre public. Et en fait, on dit le vrai argument. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des fascistes. Eh bien, regardez tout ça. Ça nous conduit à un monde où on doit renouer avec la dissidence.
Et comment alors, selon vous, il faut restaurer et comment on peut restaurer la liberté d'expression, très concrètement?
Alors, on ne peut pas se... J'ai entendu Emmanuel Macron cette semaine se porter à la défense de Zemmour et de Mélenchon en disant qu'ils ont le droit de parler même si on n'est pas d'accord avec eux. Et le président de la République a évidemment raison. Mais il faut aller plus loin que ça. Il va falloir, c'est ce que j'ai cherché à expliquer, il y a un dispositif politico-juridique qui, aujourd'hui, entrave la liberté d'expression. Donc, si on veut restaurer la liberté d'expression, il faut démanteler ce dispositif politico-juridique. Il faut en finir avec toutes ces lois sur la haine, entre guillemets, qui se sont accumulées au fil des décennies et qui n'ont cessé, sous le signe de la haine, en fait, de criminaliser et de pénaliser les discours qui ne sont pas conformes à l'idéologie dominante. D'abord et avant tout, le concept même de propos haineux doit tomber. Ça me semble absolument essentiel. Donc, ces lois doivent être remisées. Elles n'ont pas leur place dans une démocratie libérale. Dans une démocratie libérale, on débat dans l'espace public. On ne débat pas devant les tribunaux pour des idées, premièrement. Deuxièmement, il faut définancer, couper le financement de toutes ces associations militantes dont la principale fonction consiste à amener devant les tribunaux ceux qui tiennent des propos qui heurtent justement le discours public dominant. Il faut aussi, ça me semble essentiel, retrouver, mais ça prend du temps, une éthique de la conversation démocratique. Et dans les seules limites à la liberté d'expression, ça devrait être la diffamation et l'appel à la violence. Pour le reste, on peut dire ce que l'on veut. Je préfère une société qui tolère les conneries, pardonnez le terme, plutôt qu'une société qui décide de proscrire les propos qui dérangent. Ça, on appelle ça la liberté. On appelle ça la démocratie libérale. Et par ailleurs, dans cet état d'esprit, ça me semble assez important de le dire, j'espère tous ceux qui ont défendu la liberté d'expression cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Emmanuel Macron, mais tous nos amis à gauche, je veux savoir, est-ce qu'ils sont d'accord avec la censure des publicités du livre de Mouto et Stern? Il faut leur demander à chacun d'entre eux. Ils ont dit liberté d'expression toute la semaine. Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette censure de la publicité du livre de Mouto et Stern? C'est la chose la plus fondamentale qui soit. Sinon, ils mentent.
J'ai l'impression que c'était moi, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, vous étiez en train de me gronder.
Mais pas du tout. Ça ne viendrait pas à l'idée.
Arthur de Matrigan, Mathieu Bocoté, une vision de la liberté d'expression très américaine, disons-le.
Oui, mais comme l'Amérique a débarqué en France, on peut le comprendre. Vous n'ignorez pas de savoir, cher Elliot, que le phobe est une plaie et qu'en plus le salaud se multiplie. Quoi. C'est pire qu'un virus pangolin. Vous avez islamophobe, xénophobe, europhobe, même certains disent québécoisphobe. Bref, il y en a un qui est encore plus phobe que les autres, c'est le LGBT-phobe. Alors lui, c'est le cador de la haine, le prince d'Urance, le seigneur de la crasse, vous pouvez coller tous les termes, parce qu'à lui tout seul, il cumule une phobie par consonne. Et en plus, comme elle s'additionne chaque année, il va à la fin être soupçonné accusé d'une vingtaine de phobies dont il soupçonne même pas l'existence. Et la chasse à la LGBTophobie, comme le dit David Béliard qu'a cité Mathieu, c'est le sport favori de la mairie de Paris. Quoi. Certains même disent qu'il y aura une amicale de baltrapophobes rue de Rivoli, j'ai pas vérifié l'information. Mais là, ce qui est assez pratique avec la phobie, c'est que vous accolez ce terme à chaque minorité, et hop, vous psychiatrisez l'adversaire, l'autre. Celui qui n'est pas d'accord avec vous, celui qui refuse que vous changez son monde sans lui demander son avis. Et vous pouvez aussi le criminaliser. Parce qu'avec certaines phobies, il faut rappeler que ça se termine au pénal. Donc, quand vous avez Sainte-Anne ou la santé comme terminus, certains préfèrent courageusement la fermer ou sinon rentrer dans le rang. Mais rassurez-vous, personne n'est à l'abri parce que de se faire clouer une pancarte de phobe sur la tronche, parce qu'on découvre même des transsexuels accusés de transphobie. Donc, on s'en sourirait presque si cette folie ne commençait pas sérieusement à virer au régime tyrannique. Alors, on va repréciser certaines choses, puisque quand on a un lobby qui a son sigle sur les bancs de la 17e chambre correctionnelle, bah, on n'est jamais trop avare d'explications. Donc, insulter une personne en raison de son orientation sexuelle est évidemment stupide et tout aussi grave que traiter quelqu'un de sale blanc, de sale noir ou de sale juif. Et celui qui en tabasse une autre pour les mêmes raisons est un con qui doit finir en prison. Mais il faut quand même rappeler quelques vérités, puisque les mythes sont tenaces, la LGBTophobie ne hante pas la France des clochers, pas plus que ceux qui refusent de se soumettre à un lobby. Et l'homophobe ou le transphobe ne porte pas forcément de pull sur les épaules, il ne roule pas forcément au diesel, il ne se prénomme pas forcément Jean-Eudes, il ne se gèle pas les roustons à manifester ou à combattre un programme politique. Et si ces derniers, ces militants, voulaient vraiment combattre l'homophobie, il faudrait qu'ils changent de boussole en la pointant par exemple à l'opposé de la banlieue ouest de Paris, mais ça c'est une autre histoire. Parce que ces militants planquent en fait une idéologie derrière des combats qui sont légitimes. Ils ont un objectif, changer le monde, un calendrier, et la mairie de Paris est l'un des centres de commandement. Et tous les moyens sont bons, instrumentalisation des chiffres, délation, perfusion d'idéologie à l'école, harcèlement, clientélisme, menaces et censure. Et la censure, on l'a vu avec le dernier livre, excellent livre, enquête de Marguerite Stern et de Dora Mouto, que je vous invite tous à lire évidemment. Parce que forcément, quand on appuie là où ça fait mal, bah, c'est plus facile de convoquer le retour des bûchers de l'Inquisition espagnole que de répondre point par point aux faits qu'elle les dénonce, qu'elle source et qu'elle explique. Et donc, ils ont demandé le retrait des affiches et l'entreprise a exécuté. Mais il faut savoir en fait comment ça fonctionne. Un marché publicitaire, ça représente des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise gagne un marché par un appel d'offres. Un appel d'offres est organisé par la ville. Ici, c'est la ville de Paris. Or, il va y avoir un prochain appel d'offres dans les prochaines semaines sur le mobilier urbain d'information qui représente 1600 dispositifs. Et qu'a déclaré Manuel Grégoire, qui est adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme et de l'architecture, donc au fait de cet appel d'offres, que, je cite, « la publicité doit être porteuse de valeur ». Donc, comme disait Audiard, quand on parle de pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. J'ajouterais qu'à partir d'un certain chiffre, beaucoup de gens se couchent également.
Voilà pour le premier édito. On passe à une actualité outre-Atlantique. C'est une nouvelle qui nous vient du Canada. Le gouvernement de Justin Trudeau, dans son nouveau budget, annonce s'ouvrir aux exigences de la finance islamique et notamment à la mise en place d'hypothèques halal. Et cette histoire qui nous vient d'outre-Atlantique, je le disais, en dit beaucoup sur ce que le monde occidental devient, selon vous, et tel sera l'objet de votre second édito.
Alors, ça a fait un peu débat au Canada cette semaine, pour ne pas dire beaucoup. Alors, je résume. Budget fédéral canadien du gouvernement de Justin Trudeau, mardi. On trouve un passage, on parle beaucoup de la crise de l'habitation un peu partout, la crise du logement partout en Occident, au Canada aussi, et on dit pour faciliter l'accès à la propriété des musulmans, nous allons intégrer les exigences, les principes de la finance islamique en développant, et là je résume, l'idée d'hypothèques halal, donc des hypothèques qui ne viendraient pas avec des prêts à taux avec intérêt, parce que ce n'est pas conforme à la charia globalement, à la loi islamique, à la philosophie islamique, donc on trouve des méthodes de financement qui ne viennent pas avec des intérêts. Et là, c'était au cœur du débat public canadien, on dit donc, vous voulez des hypothèques halal? Et la réponse, c'est oui. La réponse est oui, c'est nécessaire au nom de l'inclusion, au nom de la diversité. Et si vous vous y opposez, vous êtes contre l'inclusion, contre la diversité, et vous êtes islamophobe. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette halalisation des politiques, donc ces politiques publiques là, du gouvernement canadien, on ne parle pas d'une pratique simplement dans le monde privé, on parle de l'État qui décide de légitimer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État canadien intègre les principes du halal appliqué aux hypothèques, mais avec cette idée que sans quoi les musulmans n'auraient pas accès à la propriété. Mais c'est faux. Il y a des tonnes de musulmans qui ont accès à la propriété et qui acceptent les lois des hypothèques telles qu'on les connaît partout dans le monde occidental. Ce qui se passe ici, c'est un accommodement raisonnable, comme on dit au Canada, pour les islamistes. Les islamistes qui prétendent être les seuls représentants légitimes des musulmans et qui disent « si le Canada n'accepte pas la finance islamique et les hypothèques halal, alors ils discriminent les musulmans ». Et c'est faux. C'est faux, ce sont les musulmans les plus radicaux, les plus intégristes qui prennent en otage leur coreligionnaire en disant « finalement, vous exigez ça, vous exigez cela, vous aussi ». C'est la logique du multiculturalisme canadien, encore une fois, qui, et qu'on voit partout en Occident, où chaque fois, les plus radicaux de chaque communauté s'emparent de cette communauté et exigent de l'État qu'il multiplie les accommodements raisonnables et les concessions, sans quoi il sera accusé de racisme.
Il nous reste quelques minutes, Mathieu Bocoté. Vous disiez qu'il n'était pas étonnant qu'un tel programme s'impose au Canada. Qu'entendez-vous par là?
Parce que le multiculturalisme au Canada, ce n'est pas une idéologie flottante, c'est dans la Constitution. Et je vais vous donner une série d'exemples des 10 dernières années qui vous montrent comment un État dérive. En 2015, ça pour moi c'est une espèce de point tournant. On pourrait même dire avant, vous savez, dans l'uniforme des policiers au Canada, on peut avoir des symboles religieux, donc le voile, le turban, ainsi de suite. Donc c'est pas un uniforme. Les symboles religieux ont été intégrés selon les exigences communautaires et religieuses. En 2015, Mme Zunera Ishak, qui est une immigrante pakistanaise, a poursuivi le gouvernement, je pense qu'on a une image d'ailleurs, le gouvernement canadien devant les tribunaux pour pouvoir prêter son serment de citoyenneté en niqab. En niqab. Donc, et là, le gouvernement canadien, les tribunaux lui ont finalement donné raison. On peut, au Canada, prêter son serment de citoyenneté en niqab. En 2018-2019, l'équivalent du défenseur des droits, c'est-à-dire la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, donc Commission des droits de la personne, avait à la une de son, je pense qu'on a aussi l'image encore une fois, du cahier qui présente le tout, une fillette voilée. Pour marquer l'inclusion, c'était une fillette voilée qui représentait la diversité au Canada. Le Canada est un État qui mobilise, encore une fois, les moyens de l'État fédéral pour combattre la laïcité québécoise, qui est accusée de pratiquer la ségrégation ethno-religieuse. Le Canada a nommé une représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. C'est une fonction de l'État d'une femme qui, dans les faits, fait commencer l'islamophobie à toute forme de refus de faire des concessions devant l'islamisme. Là, les hypothèques halal. Mais il y a aussi d'autres choses, au-delà même de la question de l'islamisme. Le Canada est ce pays qui a fondé des programmes particuliers pour les entrepreneurs noirs. Donc ça, pour des catégories de la population définies de manière raciale, c'est des programmes d'aide économique ou budgétaire pour les entrepreneurs noirs. Mais il y a aussi inversement des postes auxquels on n'a pas accès si on est blanc, parce qu'il y a déjà trop de blancs apparemment dans ces catégories, notamment dans le professorat, dans des chaires universitaires et tout ça. Et si l'État ne se couche pas, il est accusé d'islamophobie. Si l'État ne se couche pas, il est accusé de discrimination systémique. Si l'État ne se couche pas, il est accusé de racisme systémique. Il faut dire qu'au Canada, l'État ne se couche pas. En fait, il n'est pas plus de se coucher. Il fait la promotion de ce multiculturalisme extrême. Je note encore une fois avec plaisir que les seuls à résister à ça dans le Canada, ce sont les indépendantistes et les nationalistes québécois, au nom d'une conception universaliste, d'une conception de leur conception de la nation et de la laïcité. Comme quoi le Québec est ce pôle de résistance dans ce wokistan qu'est le Canada.
Allez, en 1 minute 30. S'il vous plaît, Arthur de Vatrigan, puisque dans la seconde partie de l'émission, nous recevrons Bernard-Henri Lévy. Bon, ça se passe au Canada, ça se passe pas chez nous.
Pas encore, parce qu'on sait que le Québec, qui n'est plus libre, est un poste avancé et nous donne un perçu de ce qui va se passer en France si on ne change pas radicalement. Donc aujourd'hui, le basculement démographique est peu ou prou reconnu. Certains disent que c'est une chance, d'autres disent qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais la majorité disent « bon, le problème, c'est que notre système a été dévoyé ou fonctionne mal, donc on va le changer, on va le réparer ». En fait, non, le système, il fonctionne super bien, il fonctionne même à merveille. Et c'est justement parce que notre système est une réussite qu'on se retrouve dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est quoi notre système? C'est quoi le principe directeur depuis des décennies? C'est l'assimilation, c'est mal, l'inclusion, c'est bien. Et l'inclusion, version, venez comme vous êtes. Sauf qu'une colloque de personnes qui partagent rien, pendant un an ça va, au bout de deux ans c'est un massacre.
La publicité, on revient dans un instant, je le disais, Bernard-Henri Lévy est l'invité de face à Mathieu Bocoté pour son dernier ouvrage « Solitude d'Israël ». À tout de suite. Quasiment 19h30 sur CNews pour la suite de face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu et Arthur de Vatrigan. Et nous recevons Bernard-Henri Lévy. Merci d'être avec nous, Bernard-Henri Lévy. Cher Mathieu, pourquoi avoir invité ce soir Bernard-Henri Lévy?
Parce que Solitude d'Israël est un très beau livre. C'est un très beau livre. Et quelquefois, quand on connaît un auteur, on perd l'habitude de le lire vraiment. On croit savoir à l'avance ce qu'il dira. Et là, on est devant un ouvrage courageux dans les circonstances. Un ouvrage qui nous invite à penser la question d'Israël à la fois sur le plan politique et métaphysique. Donc c'est l'occasion d'en parler. Bernard-Henri Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, et puisque j'ai apprécié le livre, je commencerai par quelques désaccords. Solitude d'Israël, je vous lis. Et je me dis, il y a un paradoxe, peut-être pas une contradiction, mais est-ce qu'Israël est aussi seul que vous le croyez? Parce que vous mentionnez dans l'ouvrage qu'Israël a des alliés en Europe, dans des partis que vous n'appréciez pas nécessairement. Est-ce qu'Israël, finalement, n'est pas n'est pas seul, mais vous vous désolez des amis qui accompagnent Israël aujourd'hui.
Non, attendez, je dis deux choses. D'abord que quand on est aussi vulnérable qu'Israël, en effet, on prend les mains qui se tendent. Et puis je dis par ailleurs qu'il y a des amis dont je me méfie, contre lesquels je mets en garde. Ceux auxquels vous pensez, oui. Viktor Orban en Hongrie ou le Rassemblement national en France, je pense que ce sont des amitiés dont il faut se défier, qui ne sont pas fondées sur ce qui fait vraiment l'amitié, c'est-à-dire l'amour profond de l'autre, la connaissance de l'autre, et des raisons positives. Parce qu'être ami d'Israël, parce qu'on déteste encore plus, par exemple, les Arabes, ça ne suffit pas à être un véritable ami d'Israël.
Alors, vous prêtez les motifs peu nobles à ceux dont vous parlez, mais on pourrait dire être ami d'Israël parce qu'il y a un sentiment d'une communauté de civilisation. Par exemple, Israël représente la démocratie libérale, l'Occident, donc c'est une manière, on pourrait dire, laïque d'en parler, mais des gens qui sont effectivement populistes ou nationalistes en Europe, appelez ça comme vous le souhaitez, mais qui, par rapport à Israël, se tournent vers là et disent « nous sommes dans la même civilisation ». C'est une amitié qui est peut-être pas métaphysiquement à la hauteur de ce que vous exigeriez, mais qui est légitime.
Mais même politiquement, on parlait tout à l'heure de la Hongrie, de Viktor Orban. Il se trouve que je le connais, que j'ai même évoqué ces sujets avec lui. Un homme qui, dans le même geste, peut dire « je suis dans la même civilisation qu'Israël », dans la même conversation, et par ailleurs, je défends la mémoire du régent Horthy, qui était le Pétain hongrois, qui a participé à la déportation des 400 000 juifs hongrois en 1943. Avouez que c'est quand même, ou vous l'avouerez peut-être pas, mais il y a quand même là un paradoxe de taille. On ne peut pas dire tout et le contraire de tout, vous voyez ?
Alors, c'était le point de départ sur le paradoxe. Cela dit, vous parlez de solitude d'Israël. Qu'entendez-vous par solitude aujourd'hui ? Une solitude est-elle métaphysique ? Est-elle politique ?
Non.
Qu'entendez-vous par solitude ?
Non, elle est politique. C'est cette désapprobation, cette théologie de la réprobation dont Israël est victime partout dans le monde. Regardez, mon livre part, c'est pas un livre sur le 7 octobre, mais il part de l'événement du 7 octobre. Immédiatement après cet événement tout de même énorme et monstrueux, on a assisté un très bref laps de temps à une solidarité avec Israël et aussitôt après comme une espèce d'effacement de cette solidarité, d'effacement de l'événement lui-même et au contraire des manifestations d'une violence insensée contre Israël et chez les alliés d'Israël. Des appels à la retenue ou à l'inaction qui là aussi n'était pas...
Encore une fois, chez les alliés que vous souhaiteriez avoir les plus fervents pour Israël.
Attendez, chez les alliés...
Je pense aux gouvernements occidentaux, pas aux partis populistes.
Je parle, il n'y a pas que souhaiter ou pas souhaiter, je parle des alliés réels, les États-Unis d'Amérique, qui d'une main reconnaissent le droit d'Israël à se défendre, il ne manquerait plus qu'ils ne le reconnaissent pas, et qui de l'autre main l'invitent à un cessez-le-feu définitif, l'invitent à pactiser avec le Hamas et donc à faire une espèce de compromis avec ceux-là même qui ont éventré les femmes, les hommes des kibbutz de Kfar Aza et de Be'eri.
Alors comment expliquez-vous cette solitude aujourd'hui ? Comment expliquez-vous le fait que les alliés d'Israël s'en détachent ou à tout le moins ne font pas preuve d'une solidarité dans l'épreuve ?
Ben, je ne sais pas, c'est le fruit. Moi, vous savez, je suis de ceux qui disent... Je le dis depuis 1982. Depuis 1982, dans un livre qui s'appelait « Questions de principe », j'ai écrit que la seule forme moderne possible d'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Mmh. C'est la haine d'Israël ou tout simplement sa délégitimation. Voilà. Ben, je crois qu'on en est là. On est au pic de cette délégitimation qui a commencé très tôt, qui a commencé en vérité dès la naissance d'Israël. En vrai, dès 1948, il y a eu un vent de colère et de négation qui a soufflé sur le monde entier, malgré évidemment le vote des Nations Unies, ainsi de suite.
Et aujourd'hui, pour vous, c'est l'idée même d'Israël qui est contestée dans le monde occidental, ou peut-être, pour être plus précis, dans certaines catégories idéologiques ou politiques du monde occidental ?
Vous savez, les fameux pamphlets interdits de Céline, hein, de l'école des cadavres, les beaux draps et Bagatelle pour un massacre, faisait au fond aux juifs de l'époque un grand reproche. Enfin, il y en avait d'autres, mais le reproche clé, c'était d'être des fauteurs de guerre, d'être le plus grand danger possible pour la paix du monde, pour tout ça. C'était ça. Eh bien, souvent, quand je regarde, quand j'écoute les plus modérés de ces anti-israéliens, ceux qui ne sont pas animés par l'espèce de rage folle qu'on voit en ce moment à Colombia, c'est le même argument. Israël, fauteur de guerre. Israël qui est en train d'embraser la région. Israël dont la riposte à l'Iran, à cet événement tout de même inouï qui s'est produit samedi dernier, hein, il y a juste une semaine, si elle était trop disproportionnée, mettrait en péril l'ordre régional et l'ordre mondial. Honnêtement, on ne dit ça que d'Israël. Je ne vois pas un autre pays qui embute à une attaque de l'ampleur de ce qui s'est passé samedi dernier ne pourrait pas répondre au prétexte qu'en répondant, il risquerait d'allumer des brasiers mal éteints. Donc, il y a quelque chose de cet ordre qui commence, je vous dis, il y a bien longtemps, le pamphlet de Céline en était une manifestation qui va jusqu'aujourd'hui, cette idée, en effet, d'une communauté de femmes et d'hommes qui sèment le désordre, qui troublent la paix du monde, et ainsi de suite.
Arthur de Vatrigan.
Je vous propose une autre explication qui vous déplaira probablement, mais vous êtes très critique à l'égard des thèses woke venues d'Amérique, et d'ailleurs on voit les woke dans les universités qui prennent fait des causes pour les Palestiniens et utilisent des termes ignobles pour Israël. Pareil pour les décoloniaux, les indigènes de la République qui ont pris toute la sémantique du Hamas. Évidemment, vous déplorez, comme tout le monde nous tous, la vague d'antisémitisme depuis 7 octobre en France, mais de Jean-Paul Sartre à Bernard-Henri Lévy, opposant des démocraties assimilationnistes et fer de lance peut-être de l'histoire coupable, n'avez-vous pas semé, peut-être malgré vous, des germes de destruction qui se retournent aujourd'hui contre Israël et contre ce que vous souhaitez ou ce que vous imaginez comme idéal?
J'aurais semé quoi depuis, depuis ma prime jeunesse, je suis un défenseur d'Israël. Je pense que le sionisme est une des très belles aventures de l'humanité moderne. Et je n'ai jamais été dans la culture de la honte.
L'histoire coupable.
De l'histoire coupable. J'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé au contraire que l'Europe était un immense foyer de civilisation, qu'il y avait une grandeur de la France, que cette grandeur, elle était encore plus grande quand elle tentait de l'être pour tous les hommes. Je n'ai jamais pensé que ni la France ni l'Europe fussent coupables, ni les États-Unis d'ailleurs, car si j'ai bien une chose en horreur, et philosophiquement et politiquement, c'est l'anti-américanisme primaire. Voilà. Donc non, je ne participe pas de cette culture de la...
Ah, mais je suis ravi d'entendre que l'histoire française a une grandeur.
Ah ben, l'histoire française a une part infâme et a une part grande.
Vous avez plus entendu parler de la part infâme que de la part de grandeur.
Ben, vous ne m'écoutez pas suffisamment. La part infâme, c'est-à-dire la tradition pétainiste, elle est évidente et pour moi... Mais la part grande, c'est la part gaulliste, la part de la France libre, la part anti-Dreyfusarde, tout ça, et la part Dreyfusarde, tout ça fait partie aussi de l'histoire de France. Vous savez, il y a une très belle histoire que racontait Emmanuel Lévinas. Il parlait de son père qui, lorsqu'il entend parler de la France, il ne sait pas très bien, est-ce qu'il doit se réjouir du fait qu'une moitié de la France se lève pour un capitaine juif injustement accusé, ou est-ce qu'il doit au contraire s'horrifier du fait qu'il y ait des manifestations en France qui font écho au sentiment de l'autre moitié? Donc c'est ça la France, c'est les deux, part de lumière et part d'ombre.
Alors je reviens sur Israël et sur ce qu'on peut appeler les paradoxes potentiels dans votre œuvre. Est-ce qu'Israël, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est un État, nation, qui tient à avoir une majorité culturelle clairement affirmée qui exprime son identité. Les Juifs redoutaient et redoutent encore d'être mis en minorité dans leur propre pays, qui réclament le droit de se défendre, donc le primat de la souveraineté nationale, contre quelquefois les sermonneurs au nom du droit international qui voudraient, vous l'avez dit, limiter la défense alors que le pays est attaqué dans ses intérêts existentiels. Je me trompe peut-être, qui célèbre l'enracinement, la patrie retrouvée après 2000 ans. La patrie retrouvée, date, et pas n'importe laquelle, celle-là. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a là une forme de nationalisme, au sens pas péjoratif du terme, décomplexé, qui n'est pas familière pour moi qui a traversé votre œuvre.
Eh ben je crois que vous vous trompez, je crois que vous jouez sur les mots. Le sionisme, par exemple, ne prêche pas l'enracinement au sens où je crois que vous l'entendez. Je vous lis un peu et je vous écoute parfois, y compris à CNews. Le sionisme n'est pas un barésisme juif, c'est autre chose. Si vous lisez toute cette littérature dont j'ai nourri en tout cas ce livre, cette littérature sioniste, les racines, elles sont au ciel autant que sur la terre. Il est recommandé que l'habitation de la terre, c'est là-dessus que je termine d'ailleurs le livre, il est recommandé qu'elle soit légère, il est recommandé qu'elle soit gracieuse. Il est dit, y compris dans les textes bibliques qui sont bien avant les textes sionistes, il est dit que seuls les arbres ont le devoir de prendre racine, pas les hommes. Il y a dans l'expérience d'Israël un mélange, dans l'habitation de la terre israélienne, un mélange d'appartenance et d'étrangeté, par exemple, qui est assez étrangère au nationalisme tel que j'ai l'impression que vous l'évoquez.
Alors, je poserai la question autrement. Imaginons que dans un scénario catastrophique, mais qui n'est pas inimaginable, qui habite une partie de la conscience israélienne, que les Juifs deviennent minoritaires en Israël. Est-ce qu'Israël serait encore Israël ?
Non, bien sûr que non. Israël, le projet politique, le projet citoyen et le projet national d'Israël, c'est de faire qu'il y ait quelque part sur la Terre, même si c'est un millionième de la planète, où les rescapés de la Shoah, les enfants et les petits-enfants des rescapés de la Shoah, est un lieu sûr. Donc, en effet, les Juifs, s'il n'y avait pas... c'est au cœur, ça, de l'existence d'Israël.
Mais justement, alors, vous lisant, alors, Yann, vous évoquez les deux sources, on pourrait dire, de légitimité d'Israël. Donc, vous évoquez évidemment la Shoah, mais aussi le fait que le sionisme est antérieur à la Shoah. Le sionisme n'a pas attendu la Shoah pour dire « nous voulons, pour le peuple juif, son propre État ». Est-ce que, pour vous, ces deux sources sont légitimes, surtout dans le contexte présent ?
Mais ces deux sources sont totalement légitimes, et la Shoah et la forme monstrueuse et extrême d'un antisémitisme qui est bien plus ancien que cela, y compris en France. Je raconte dans le livre cette longue histoire de l'antisémitisme français, de l'antisémitisme européen, ces errances des Juifs ballottés, quittant la France, partant sur les routes d'Allemagne où ils sont à nouveau pogromisés, revenus en France, et ainsi de suite. Donc, Israël, c'est une réponse à toute cette histoire-là, l'histoire de cette... Les Juifs, qu'on le veuille ou non, c'est le plus vieux peuple persécuté du monde, le plus anciennement persécuté. Voilà. À ce peuple-là, le monde a fini par reconnaître un petit lambeau de terre, une petite bande de terre, c'est-à-dire Israël, où il est chez lui.
Vous arrive-t-il de craindre qu'Israël disparaisse véritablement ?
Oui, bien sûr. Ça m'arrive en ce moment. C'est-à-dire que cette nouvelle guerre-là, et j'en ai vu des guerres d'Israël, et j'en ai couvert d'ailleurs pour des journaux, cette guerre-là me semble en effet proprement existentielle. Parce que le Hamas, bien sûr, mais tout ce qu'il y a autour du Hamas, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire le Qatar, c'est-à-dire la Turquie, quand je vois toutes ces forces qui se mettent en ordre autour du Hamas avec une idée, c'est que le Hamas c'est un mouvement de résistance, avec un préjugé, toutes les modalités sont possibles dès lors que l'on voudrait en finir avec l'oppression entre guillemets des Palestiniens. Quand je vois tout ça se mettre en ordre autour d'Israël, je me dis qu'en effet, il y a quelque chose de l'ordre de la menace existentielle qui pèse. Oui, bien sûr.
Arthur de Vatrigan.
Je reviens sur ce que vous avez dit au début sur le Rassemblement national, mais pour revenir sur votre livre. Vous avez dit, bon, je me méfie de ces amis-là ou de ces nouveaux amis. Partons du principe que, ok, ce ne sont pas vos amis, mais allons plus loin qu'ils soutiennent Israël parce qu'en fait, ils n'aiment pas les Arabes. Peut-être que on a tous un ennemi commun qui est l'islam radical. L'islam radical dont vous évoquez dans votre livre justement un passé un peu oublié, le grand moufti de Jérusalem, la participation avec les SS. Finalement, le combat d'un ennemi commun peut dépasser certaines inimitiés.
Oui, mais il y a plusieurs ennemis communs. Par exemple, aujourd'hui, il y en a un deuxième, c'est la Russie de Poutine. C'est la Russie néo-orthodoxe et néo-tsariste poutinienne. Donc, moi, je suis prêt à considérer une amitié dès lors qu'on me dirait, en effet, qu'il y a les deux. Et d'autant plus qu'ils sont alliés, puisque, comme ça ne vous a pas échappé, l'allié le plus solide aujourd'hui de l'Iran et l'endroit du monde, le grand pays en tout cas où les gens du Hamas ont été reçus avant et après le 7 octobre, c'est Moscou, c'est la Russie. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a deux ennemis ?
Sauf que je n'ai pas vu de terroristes russes tuer des Français. J'ai vu des terroristes musulmans, islamistes, pardon, mais oui. D'islam radical, et donc...
Bien entendu, mais moi j'ai vu un pays ami, une nation sœur de la France, qui est l'Ukraine, bombardée sans raison du jour. Vous savez, c'est à ça que j'ai passé les deux dernières années. Avant d'écrire ce livre sur Israël, j'ai passé les deux dernières années à tourner des films sur la guerre en Ukraine, sur la guerre sauvage, immotivée, tout à fait neuve d'ailleurs dans sa modalité d'apparition, livrée par la Russie à l'Ukraine. Alors, en effet, c'est pas la France, mais l'Ukraine, est-ce que c'est ou non une nation sœur de la France ? À tous égards, je le pense.
Alors, restons en France pour un instant. L'apparition d'une figure, on a vu la France insoumise qui a pris un positionnement très singulier depuis quelques mois. L'apparition d'une figure comme Rima Hassan dans le débat public, dont on parle beaucoup ces derniers temps, que vous inspire-t-elle ?
Cela confirme ce que je pense de la France insoumise depuis très longtemps, c'est que la France insoumise, Mélenchon, les quelques autres que j'évoque au début du livre, parlent aujourd'hui comme parlait autrefois Drumont, parlent comme l'extrême droite la plus férocement anti-juive de l'époque de l'affaire Dreyfus ou plus tard des années 30. Oui, bien sûr. Cette jeune femme qui d'ailleurs aura à s'expliquer devant la justice, qui a clairement dit que c'est pas la citation exacte, mais enfin que le pogrom du 7 octobre était une riposte, un épisode normal dans un combat légitime qui est le combat palestinien. Voilà, tout ça renoue avec ce qui, alors pour le coup, de plus glauque dans l'histoire de France, puisqu'on parlait tout à l'heure de la part lumineuse et de la part d'ombre. La part d'ombre, elle ressurgit aujourd'hui sous les traits des gens de la France insoumise.
Alors, je me détache un instant de Mme Hassan, mais je porte le propos plus largement. Est-ce qu'on peut dire que, par ailleurs, l'antisémitisme qui émerge aujourd'hui en France n'est pas un antisémitisme indifférencié ? Est-ce qu'on peut le détacher complètement des vagues migratoires des dernières décennies ?
Oui, je ne crois pas qu'il ait à voir avec les vagues migratoires, parce que parmi les migrants, donc, il y a heureusement une immense majorité de gens qui sont de bons citoyens, bons républicains.
Ce qui va de soi, mais c'est plus marqué dans certains quartiers. On le trouve davantage, on pourrait dire, en Seine-Saint-Denis quelquefois qu'à Versailles, disons ça comme ça.
On peut dire ça, bien sûr, mais ça a à voir non pas avec les migrants, avec les flux migratoires, ça a à voir avec les territoires perdus de la République, comme disait Monsieur Bensoussan. Voilà, ça a à voir avec la longue histoire des défaillances républicaines de la France.
Il nous reste 1 minute 30 environ. Je vais avoir une question sur ce qu'on pourrait appeler la part métaphysique de votre ouvrage qui présente. Vous défendez politiquement Israël, vous défendez son droit à se défendre, vous défendez son histoire propre, mais vous défendez aussi au cœur de l'identité juive et même d'Israël, il y a une charge métaphysique. Il y a une forme de message universel qui interpelle les autres peuples. Comment le présenteriez-vous ?
Oui, comment le présenter ? Ce que mon maître Emmanuel Lévinas appelait l'humanisme de l'autre homme. L'universalisme de cette manière de penser l'autre, du rapport à l'altérité, c'est le refus de considérer les misérables, comme disait Victor Hugo, comme des ennemis, le souci des affamés, des assoiffés ou des damnés de la terre. Tout ça est au cœur du message juif au sens métaphysique, tel que je l'entends à la fin du livre, dans le passage que vous évoquez, qui s'appelle « Si je t'oublie, âme juive ». Je pense qu'en effet, les juifs d'aujourd'hui et les amis des juifs et les amis d'Israël ne doivent oublier ni Jérusalem, ni cette belle profondeur, cette belle lumière de l'âme juive.
Grand merci Bernard-Henri Lévy.
Merci.
L'occasion pour cette fin d'émission de penser aux otages franco-israéliens, au Adolf et Orion, qui sont toujours détenus depuis plus de 6 mois, et ainsi que les 130 otages aux mains des terroristes du Hamas. Merci à tous les trois.
Merci.
L'info se poursuit sur CNews. Dans un instant, ce sera l'heure des pros. Et on va commencer avec une actualité. Vous savez qu'il y a un maire à côté de Lyon qui a décidé de jeter l'éponge, qui a démissionné. Ça faisait 10 ans qu'il était maire. Il a été victime ces derniers mois et ces dernières années d'antisémitisme. Et il a dit « j'en peux plus, je lâche ». Et donc on va commencer avec cette actualité-là. A tout de suite.